La Bible, c'est une unité dans la diversité. Hein. Et c'est vrai aussi pour tous les aspects moraux ou éthiques. Donc j'ai fait un focus sur le Nouveau Testament parce que c'est quand même plus rapide. Hein. Et vous voyez que même si c'est plus rapide, le Nouveau Testament c'est très court par rapport à l'Ancien, mais vous avez déjà une vraie diversité. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est. Quand on vous dit, mais que dit la Bible en morale? Ah, ben, en morale, quel texte? Quel endroit? Quel auteur? On est bien d'accord que c'est
Dieu qui l'auteur. Hein.
Mais autrefois, on disait que les auteurs de la Bible avaient écrit sous la dictée de Dieu. Bon, on a abandonné ce genre d'expression.
Heureusement, merci.
Ah oui, mais c'était très en vogue. Hein. C'était très en vogue. Bon, c'est fini parce qu'on a compris que ça nuisait un peu à l'autonomie des personnes, des auteurs. Bon. Vous avez. C'est très contextualisé, la Bible. Hein. Très, très contextualisé. Hein. Sans parler des. Ça, c'est plus général aussi. Hein. Sans parler des. Dans l'Évangile, par exemple, des péricopes qui n'existent, enfin qui n'ont pas de base historique, par exemple.
Qui ont été mises là pour expliquer quelque chose d'autre. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez des passages d'Évangile qui ont une intention théologique, mais qui n'ont pas forcément d'enracinement théologique. Hein. C'est-à-dire que si vous me demandez, y a-t-il une morale à la transfiguration? Je ne peux pas vous garantir que la transfiguration. La transfiguration, c'est une scène théologique. L'enracinement historique, voyez avec vos exégètes préférés, mais voilà, hein, c'est donc il y a une diversité.
Ouais, déjà ça se rend quand on va en Terre Sainte et qu'on nous dit non, mais en fait c'était pas sur le mont Tabor et en fait on sait pas où c'était. Ah, oui, d'accord, oui, donc en fait,
oui, bien sûr,
t'as gagné. Ouais.
Alors, vous avez peut-être quelques questions ce que vous avez entendu, vous a paru.
Enfin, c'est pas vraiment une question. Enfin, si, oui, c'est quand même une question. Du coup, je suis allée lire Genèse 19. Enfin, je l'ai parcouru, mais. Et en fait, je m'attendais quand même à voir qu'on disait pique-pente de Sodome et Gomorre. Et en fait, on dit rien. Enfin, j'ai pas trouvé. Donc, je suis même passée un peu sur 18 en me disant, bah, si ça se trouve, c'est avant qu'ils expliquent les turpitudes de ces deux villes.
Ouais.
Et en fait, je n'ai pas trouvé.
Bah, c'est parce que vous avez une lecture naïve, au bon sens du terme.
Et tac, dans ta
tête. Non, c'était un compliment. D'accord. Non, c'est un compliment.
Pardon, excusez-moi.
C'est-à-dire que vous avez une lecture, j'aurais dû dire, qui n'est pas. Non, parce que le terme que
c'est
je vais
pas orienté.
Oui, qui n'est pas orienté, conditionné, ça, qui déterminé. Est... par ce que l'on dit habituellement. J'ai pris ce texte-là parce que la tradition de l'Église, mais même la culture populaire, fait un sort terrible à ceux qu'on appelle les sodomites. C'est bien ce récit-là, si vous voulez. Mmh. Et c'est même un des textes que l'on cite très souvent pour appuyer un argument de l'Église qui est un argumentaire moral qui est celui du contre-nature. Et très longtemps dans la morale catholique, le contre-nature s'était associé à au sodomite de Genèse 19. Et donc c'est bien que vous n'ayez pas eu cette impression, parce que ça veut dire que quand on lit le texte tel qu'il est, ça ne saute pas aux yeux.
Ah non.
Voilà.
Voilà. Pas du tout. Je me suis dit,
mais alors, les exégètes, avec leurs instruments à eux, de culture à la fois scientifique et littéraire, ont refait la lecture et, comme vous, ils ont trouvé que. Eux ont plutôt, comme je vous ai invité à le. Comme je l'ai dit, je crois, dans l'audio, ils ont plutôt. Souligner la dimension négation de l'altérité, et non pas tellement un texte qui viserait particulièrement les pratiques homosexuelles. D'ailleurs, si on veut vraiment des textes de la Bible qui questionnent qui jugent même l'homosexualité, il y en a d'autres. Mais apparemment, celui-là,
c'est pas celui-là.
C'est pas tellement celui-là. Or, c'est beaucoup ce texte qui a servi de référence. Vous voyez ? Et donc, ça illustre bien le piège que j'ai donné en commençant mon cours là, audio. En morale, mais c'est vrai sur d'autres sujets, on prend le texte comme un prétexte. Hein. On a d'abord ses lunettes, on chausse ses lunettes de moraliste et on va voir dans le texte.
Si le texte fait résonance à ce qu'on veut faire.
Voilà. Oui. Alors qu'il faut commencer par laisser le texte parler, travailler le texte, l'étudier, le recevoir dans l'esprit, etc. Bon. Donc, votre appréciation du texte, elle rejoint beaucoup de ce que dit Exégète maintenant, qu'on a eu tort, mais on a longtemps eu tort, hein, de considérer ce texte-là comme une condamnation de la sodomie. Alors, il y en a d'autres. Hein. Oui. Dans le Saint-Testament, il y a quelques textes quand même qui résistent à ça, mais pas tellement Sodome et Gomorre. C'est fou, non ? Parce que c'est un vocabulaire qu'on a... Voilà, enfin... eh bien, c'est pas ça.
Non.
Moi, pas d'abord ça, en tout cas. C'est pas d'abord ça.
En tout cas, moi, c'est ce que je retiendrai. C'est vraiment... Et que finalement, ce texte-là, peut-être, moi qui ai mis beaucoup de temps à comprendre Babel, quand même, je ne comprenais pas tout Babel.
Ah oui, c'est pas le plus simple, oui.
Non. Ben, alors, je ne vous dis pas que j'ai tout compris, hein, mais bon, j'ai quelques clés. Et du coup, quand vous avez parlé d'altérité, je me suis dit, bah, tiens, peut-être que ça fait écho à Babel et que c'est une espèce de... fil conducteur dans la Bible que j'ai pas lu, hein, je vous avoue.
Alors,
sur l'altérité et l'importance de l'altérité.
Ouais. Alors c'est là vous faites une deuxième très bonne observation.
Emmanuel.
Non mais attention là c'est.
Il y a du level. Hein.
qui anticipe sur ce que je dirais de la morale des pères. Ah. Quand les pères d'ailleurs ont, je le dis pas ce soir parce que je veux pas, mais on ne peut jamais lire un verset de la Bible séparé de tout le corpus biblique. Alors, je le dirai précisément pour les pères, hein, mais la remarque qu'a faite Emmanuel là hein, est une très très bonne remarque. Pourquoi ? Parce qu'elle ouvre, alors j'ai utilisé un mot un peu pédant, excusez-moi, je l'utilise parce que d'autres l'utilisent. Moi, en général, j'essaie de ne pas dépasser plus de 5 syllabes parce que c'est très vite pédant. Mais il y a un mot qui illustre un courant théologique qui s'applique à la Bible aussi, qu'on appelle l'herméneutique. Herméneutique, pour les hellénisants parmi vous, herménein, interprété. Voilà. Alors, pensez à peut-être ceux qui connaissent un peu la lecture juive des Écritures, ou ceux qui ont déjà vu, celles et ceux qui ont déjà vu une Bible commentée par les pères. C'est-à-dire, il faut s'imaginer le texte de la Bible, hein, mais demain c'est le texte, d'accord, et tout autour les commentaires.
Il y a de la place, voilà. Sur les marges alors.
Voilà, dans les marges, à côté, etc. Alors, la tradition juive fait ça beaucoup. Les pères de l'Église ont fait ça tout le temps. Pourquoi ? Parce que, comme l'a fait remarquer Emmanuel, n'est-ce pas, un texte ne s'explique que par un autre. Et donc, si on veut comprendre de quoi il s'agit sur l'altérité, on ne va pas faire un focus sur un verset en se disant « la Bible dit ça ». Et donc, la morale de l'Église, ce sera ça. On va mettre ce texte en résonance avec un autre. Et on ne va pas hésiter du tout à faire ce qu'a fait Emmanuel. Tiens, ça me fait penser à ça. Mais qu'est-ce que je lis sur le même thème dans un autre livre ? Et hop, je vais voir le texte de Babel et qu'est-ce qui peut, m'apprendre sur le même. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une lecture, la lecture herméneutique, c'est un jeu permanent de résonance, si vous voulez. On se dit que le texte est un texte vivant et comme le disait Grégoire le Grand, l'écriture avance avec ceux qui la lisent. Ça, c'est une très très beau, c'est un très bel apophtègme des pères. Vous pourrez replacer ça. L'écriture avance avec ceux qui la lisent. Vous voyez, c'est-à-dire, on regarde. C'est pas une lettre morte, c'est toujours vivant. C'est pour ça que si on prend, je prends maintenant un autre cas de morale, mais le fameux cas que j'ai dû évoquer la dernière fois, qui est ultra connu du port du voile pour les femmes.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est une mesure temporaire liée à Saint-Paul, liée à la culture du temps? Parce que ça, c'est bien, c'est une norme morale. À l'époque, c'était une norme morale. On entrait dans les assemblées avec uniquement chrétiennes, avec, pour les femmes, il fallait porter. Etc. Mm. D'ailleurs, pour les générations plus anciennes.
Oui, ma grand-mère. Voilà. C'est sûr, ma grand-mère, même maman.
Et alors, on retrouve ça à Rome, n'est-ce pas, lorsque un ambassadeur ou un chef d'État est reçu par le pape, n'est-ce pas, la femme porte toujours. Le voile. Alors, mais on pourrait penser que cette mesure prise du temps de saint Paul soit caduque, hein, parce qu'elle n'est plus au goût du jour, parce que nos mœurs sont changées, la culture du temps a changé, l'égalité homme-femme fait qu'il n'y a pas de raison de se voiler plus que voilà. Puis tout ça va encore changer avec le port du masque. Hein, mais je ne sais pas s'il y a grand chose sur.
C'est ça, donc tout le monde porte le masque, ça c'est écrit dans la Bible.
Voilà. Voilà. Mais puis ce sera homme-femme là pour le coup. Hein. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir à quel point c'est une enquête que vous pouvez faire sur énormément de sujets en théologie morale dans la Bible. Posez-vous la question, tiens, cette pratique-là, est-ce qu'elle est encore recevable aujourd'hui? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il faut complètement l'abandonner? Ou est-ce qu'il faut la garder, mais en l'adaptant, en cherchant à voir quel sens elle peut avoir aujourd'hui? En morale, c'est des questions, c'est des questions très importantes. J'en parlais avec le groupe de tout à l'heure, la question de la nature. La question de la nature, hein, qu'est-ce qui est naturel de faire ou de ne pas faire, de vivre ou de ne pas vivre, dans la culture qui est la nôtre, qui n'est plus la culture biblique. Donc, il y a des... est-ce que tout est intangible? Rien. Est-ce qu'on peut tout changer ou est-ce qu'il faut garder quelque chose? Mais alors quoi? Voilà. Et puis, une petite question. Regardez par exemple, je parlais des petits prophètes. Hein. On dit petits prophètes dans l'Ancien Testament, à tort, parce que on dit petits parce que leurs livres sont plus petits. Hein, c'est pas Jérémie, c'est pas Isaïe et ses dizaines de chapitres, c'est des petits prophètes, Amos par exemple, voilà. Ben, les petits prophètes sont tenants d'une morale sociale, on dirait aujourd'hui, hein, une morale sociale assez révolutionnaire. Il y a même des textes d'une violence, la violence des riches, dénoncée par Amos et par les petits prophètes. Je dis révolutionnaire, c'est anachronique, mais précisément j'assume l'anachronisme, c'est-à-dire en quoi la virulence des petits prophètes en termes de justice sociale et de morale sociale, la dénonciation des riches qui se vautrent sur des canapés luxueux, etc., en quoi c'est, si vous voulez, c'est précurseur des gilets jaunes, si je caricature, vous voyez. Mais donc, quand Saint Grégoire dit l'Écriture avance avec ceux qui la lisent, ben ça veut dire qu'est-ce que les petits prophètes nous disent des révolutions d'aujourd'hui, hein, et du souci de justice sociale d'aujourd'hui et d'égalité, etc. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'était deux remarques très intéressantes parce que la seconde en particulier, parce qu'elle permettait de voir qu'on ne doit jamais isoler, hein, lire un texte de la Bible sans le mettre en résonance avec l'ensemble du corpus. Surtout si on fait le va-et-vient entre l'ancien et le nouveau, c'est-à-dire entre la promesse et l'accomplissement. Qu'est-ce qui reste de la promesse dans l'accomplissement?
Ouais. Est-ce que vous ne croyez pas que la morale, alors peut-être que ça va venir dans un de vos cours, mais que la morale chrétienne, à un moment, s'est mise en branle ou s'est vraiment renforcée, c'est super normalisé, pour une forme de cléricalisation, de prise de pouvoir du religieux, mais c'est pas jusqu'aux guerres de religion, mais qu'en dessous, finalement, les guerres de religion, c'est toujours qu'en fait, c'est une guerre politique, pas vraiment une guerre de religion. C'est presque un prétexte, si je caricature. Est-ce que vous ne croyez pas que remarquez, ça fait écho à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on fait dire au texte ce qu'on veut qu'il dise pour
on lui fait dire ce qu'on veut
faire vivre au peuple à un instant donné. Quoi.
Alors, Ce sera l'objet des prochains, c'est l'objet des prochains cours, mais je peux déjà répondre un peu. Le grand malheur de la morale, je le dirais de manière plus structurée dans mes enregistrements audio, comment dire ça ? C'est que, alors, première chose, la théologie morale a mis beaucoup de temps à devenir un secteur spécifique de la théologie. C'est-à-dire que pour très longtemps, on a considéré que la morale, ce n'était pas de la théologie. La morale, c'est de la pratique, il n'y a pas besoin de faire de la théologie, c'est de la pratique. On décide, on choisit, c'est bien, c'est pas bien.
Donc, il n'y avait pas ce contact avec le texte biblique, c'est ça ? Enfin, ce temps pris pour être vraiment en contact avec le texte biblique.
C'est sûr, vous savez, le contact avec le texte biblique,
c'est très récent.
C'est très, très récent dans l'histoire de l'Église, c'est hyper récent. Là. C'est ce qui a permis l'écuménisme. Mais surtout, vous aviez, je vais commencer à le dire là maintenant, tant pis, comment dire ça ?
On oubliera, c'est promis.
Non, mais je le redirai de manière plus approfondie, mais comment je peux suggérer ça? Vous aviez deux types de théologiens. Vous aviez, c'est-à-dire après le XIIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus récent que la Bible, mais c'est quand même pas d'hier. Hein. Après le XIIIe siècle, s'est mis en place peu à peu les théologiens qu'on appelait en latin les majores. Alors, majores, les plus grands, hein, M-A-J-O-R-E-S. Ouais. Il y a des latinisants là, ou des latinisantes. Bon, donc majores, les plus grands. Et puis, vous aviez ceux qu'on appelait au Moyen-Âge les minores, donc les petits. Alors, je vous dirai après comment on est arrivé là, mais je vais déjà vous dire ça. Les majores, c'est ceux qui s'occupaient des dogmes et de la Trinité en particulier, de la métaphysique. En gros, des choses compliquées. Hein, la Trinité, c'est compliqué, les dogmes, c'est compliqué, la Christologie, Jésus, c'est compliqué. D'ailleurs, on parle de la substance, on parle de... Voilà. Ça, c'était les majores, ceux qui faisaient de la métaphysique. Et puis, il y avait les minores, et les minores, c'était les moralistes. Pourquoi ? Parce qu'ils s'occupaient du pratico-pratique.
Pratique de la vie quotidienne. Ouais.
Eh bien, la question a porté sur les clercs. Hein. Dans les deux cas, vous aviez des clercs, mais pensez à la Sorbonne, à Paris. Pensez à... au fronton de la Sorbonne, enfin place de la Sorbonne, n'est-ce pas, où vous avez Saint-Albert-le-Grand, etc. Donc, il faut imaginer la Sorbonne avant la laïcité, avec la théologie en Sorbonne. La théologie en Sorbonne, avec des clercs, enseignait la métaphysique. Mais dans les églises auxquelles vous n'avez plus accès en ce moment, il y avait qui ?
Les minores.
Les prêtres, oui. D'autres clercs, les minores, qui confessaient. Et donc, pour répondre très précisément à la question, décidément, troisième question très pertinente, la morale est devenue une morale de confesseur. C'est-à-dire que l'Église a construit une morale à destination des confesseurs et des pénitents. Alors, bien entendu, c'est une morale de clerc, puisque c'est une morale qui est liée au sacrement de pénitence. Ce qui a beaucoup dans nos vies, si vous voulez, construit une idée de la morale. Je peux faire, je ne peux pas le faire. C'est péché ou c'est vertu ? C'est péché, je dois aller me confesser au prêtre, évidemment, hein, avec le canon du Concile de Trente qui demande de se confesser au moins une fois par an à son curé. Et je ne suis pas sûr, figurez-vous, qu'à cause du confinement, tout le monde ait pu obéir au canon du Concile de Trente que personne ne connaît plus, donc c'est pas gênant. Mais le canon du Concile de Trente, c'est ça. Vous voyez ? Donc c'était une morale pour des prêtres qui se préparaient à confesser les pénitents.
Mais donc de l'interdire et de l'autoriser, quoi. D'accord. C'est un peu comme la loi juive, finalement. Avec les...
Ouais.
Attends, il... Oui, oui, oui. Et alors que donc c'était le bas de gamme du clerc. Le clerc qui enseignait à l'université, lui, il enseignait la métaphysique et la Trinité. Bon. C'est comme ça que la morale a été rangée du côté de ce qui est mineur, alors que ce qui est majeur était réservé à l'enseignement universitaire des clercs. Et nous sommes encore complètement héritiers de ça, hein, parce qu'évidemment, si on prend le sacrement de réconciliation, on se confesse, si je caricature à l'extrême, parce qu'on a le sentiment qu'on a commis une infraction par rapport à la loi morale. Mm-hmm. Hein, le décalogue, le catéchisme, les commandements de l'Église, voilà.
Moi, j'avais une question. J'ai trouvé très intéressant la façon dont vous avez parlé des évangiles synoptiques, enfin, en tout cas de Luc, de Matthieu et de Jean, qui n'est pas synoptique, mais voilà, des évangiles. Vous n'avez pas du tout parlé de Marc. Donc, non. Je sais qu'il va très, très vite, Marc, en le liant 2 heures. Donc, ça se trouve, il y a que chi en termes de…
Non, il n'y a pas de chi, mais la question de Marc, c'est la guérison. C'est l'évangile de la guérison. C'est le miracle et la guérison. Alors, je ne dis pas que la guérison n'a pas une connotation morale, au contraire, mais c'est d'abord une question de salut. Alors, ma source, il faut quand même que je cite mes sources, que j'ai beaucoup synthétisées et remaniées, mais ma source pour typer les 4 évangiles et Paul, c'est un théologien protestant qui s'appelle Fuchs. C'est Fuchs qui a fait cette petite enquête pour essayer de…
C'est écrit comment ?
Le renard en allemand, F-U-C-H-S. Je crois que c'est Eric ou Denis Fuchs. Enfin, je pourrais vous donner la référence précise, mais j'ai trouvé très utile de sa part de proposer ces. On dit que l'évangile est tétramorphe. Mm. Il y a un unique évangile en 4 formes. Mm. Tétramorphe, c'est l'expression de Saint-Irénée. Hein. Eric Fuchs a bien montré en quoi, effectivement, on a des formes différentes dans un unique évangile. C'est-à-dire que les évangiles se sont constitués, ceux qui les ont écrits, à partir de à peu près 60 après Jésus, n'est-ce pas, entre 60 et 90 après Jésus, 60 pour Saint-Luc, 90 pour Saint-Jean, même parfois on dit un peu au-delà, jusqu'à 110, mais on ne sait pas très bien, bon c'est ça. Les auteurs qui ont écrit pour dresser un portrait de Jésus. Il est très clair que le Jésus de Matthieu, c'est un Jésus qui est sensible à la loi, Jean n'en a que faire. Ce n'est pas sa préoccupation, mais l'évangile, enfin, on se souciait du lecteur, quoi. Hein. C'est-à-dire que la communauté de Marc, c'est une communauté, de Matthieu, c'est une communauté, disait-on, je ne sais pas où en sont les dernières découvertes maintenant exégétiques, ce sont des judéo-chrétiens. Donc il faut montrer que la loi a de l'importance. Voyez pas ça chez Jean, s'en fiche complètement, et Luc c'est autre chose. Luc c'est vraiment autre chose. Luc c'est on entre dans l'histoire, il faut une identité, c'est plutôt la miséricorde. D'ailleurs on appelle souvent l'évangile de Luc l'évangile de la miséricorde. Vous voyez que c'est intéressant parce que tout de suite on voit que la miséricorde est au-dessus de la morale. Faut jamais. Jean-Yves l'aura entendu 2 fois aujourd'hui. Mais j'ai
dit oui, vous l'avez très bien dit que c'était la pratique de la miséricorde qui faisait l'identité des chrétiens.
Oui, mais je disais aussi que cet après-midi qu'il faut jamais laisser la morale aux moralistes. Oui. C'est terrible ça. Il faut toujours mettre la morale en tension avec l'évangile de la miséricorde. Sinon, on ne fait pas mieux que les païens. Ça, je crois que c'est dans l'évangile pour le coup. Hein. Faut pas que la morale se ferme sur elle-même. Elle l'a fait dans l'histoire. Je vous en parlerai dès la prochaine fois. Mais l'histoire de la morale a montré que l'Église, à plusieurs périodes, a clos la morale sur elle-même. Et c'est surtout le XIVe siècle. On se demandait si elle était encore chrétienne. Enfin, moi, je me le demande. Avoir des textes de l'époque, c'est tout à fait impressionnant. C'est ce qu'on appelle la casuistique, mais je vais vous en parler, l'étude des cas. Voilà.
Et du coup, dans le prolongement des évangiles, vous aviez écrit sur votre plan les actes, mais vous n'en avez pas parlé dans l'audio.
Ah oui, je parlais des actes.
Est-ce qu'il y avait des choses intéressantes
C'est l'échec apostolique. Hein. Là où on se rend compte que c'est là où on se rend compte que il ne faut pas avoir des actes une idée de la mission, un succès immédiat. Hein. Il y a eu peu de conversions au début. Et bon, je ne vais pas parler des actes parce que c'est dans la foulée de Saint-Luc, de Luc, hein, tout simplement. Mmh. C'est, les actes, c'est vraiment l'inscription de l'Église dans l'histoire. Et donc, mon idée dans l'audio que j'ai enregistré, c'est de montrer que la morale n'a de sens que lorsque l'Église s'inscrit dans l'histoire. Si je prends l'exemple du baptême des petits-enfants, donc le pédobaptême, c'est la question qu'Augustin a commencé à se poser. Hein. Le pédobaptême n'a de sens que parce qu'il faut pouvoir, baptiser des petits-enfants, puisqu'il va y avoir des générations, il y a des générations de chrétiens. Jésus n'a pas opéré un retour immédiat, donc il faut s'inscrire dans l'histoire. Ce qui veut dire qu'il faut des sacrements, une ritualité chrétienne, et puis il faut une morale, un comportement chrétien, et les deux connectés. C'est-à-dire, il faut que ce que l'on célèbre dans les sacrements, on l'agisse dans notre vie. Mais ça suppose que l'Église s'inscrit pour des générations et des générations et des siècles dans l'histoire. La morale, c'est une question d'histoire. Et c'est aussi une question de... La grande difficulté de la théologie morale, c'est toujours d'articuler ce qui change et ce qui ne change pas dans la morale. Ce qui est pérenne, définitif, et ce qui est conjoncturel.
Moi, j'ai bien aimé ce que tu avais dit sur la différence entre les écrits de Paul et les évangiles, en disant que dans les écrits de Paul, finalement, c'était une génération qui s'attendait à voir Jésus revenir très rapidement.
Ouais.
Et oui. Donc, il n'y avait pas d'avenir.
Il n'y avait pas le temps pour la morale, vous aviez dit. C'était très bien dit, j'en avais bien compris.
Je trouve que ça donne une manière de relire Paul qui est intéressante. Quoi.
Ben, ce qui est intéressant, c'est quand on aura la chance de revenir dans les églises, essayer d'écouter avec attention les épîtres de Paul. Parce que on tombe sur des textes, même à les entendre, on n'y comprend rien si on n'a pas dans notre arrière-tête l'idée que Paul s'adressait à une communauté qui, de son vivant, devait voir Jésus. Ils n'allaient pas mourir, ces gens-là. Donc c'était pas la peine de se marier, c'était pas la peine de, on changeait pas de métier, il y avait rien à prévoir, hein. La morale, c'est quand on commence à s'inscrire dans le précaire, c'est précaire, mais c'est historique, donc voilà. Si vous voulez, c'est le temps de l'Église qui a ouvert le temps de la morale. Voilà. Il faut que l'Église, en plus, il faut que l'Église se situe par rapport au monde. Il faut qu'elle ait une identité. Il faut être chrétien, faut être dans le monde sans être du monde. Il y a un très beau texte aussi que vous le trouverez peut-être sur Google. Enfin, un très beau texte que le pape Benoît XVI citait très souvent, qui est un texte du 1er siècle après Jésus-Christ et qui s'appelle l'Épître à Dioniète. D-I-O-G-N-E, accent T-E. Bon, l'épître à Dioniète, c'est typique, alors c'est pas dans la Sainte Écriture, l'auteur essaye de typer le comportement du chrétien dans le monde, sans être du monde. Voilà, toujours très intéressant ça.
En fait, est-ce qu'on peut dire que la morale n'est pas, c'est pas un but en soi? En fait, c'est pas un but en soi, c'est un moyen, mais c'est pas un but.
La morale, c'est pas un but en soi. La morale, c'est pas tout. Oui, c'est un moyen. C'est un moyen pour agir selon le bien. Voilà. Mais c'est ni plus ni moins qu'un moyen. Mm. Le but, c'est le salut. Hein. Mm. Mais c'est une bonne remarque, c'est-à-dire que le moyen est parfois devenu une fin, y compris
en fait, c'est ça que je voulais dire, oui. Ce n'est pas une fin en soi, quoi.
C'est ce que vous vouliez dire quand il y avait des... Quand l'Église, elle s'est refermée, elle a refermé sa morale sur elle-même, c'est ça ?
C'est-à-dire que je vous dirai la prochaine fois que la morale a été déconnectée de la question du salut ou de la grâce. C'est-à-dire on était sauvé parce qu'on avait un bon comportement moral, mais les païens en font autant.
Oui.
Hein, le pape, il a célébré une année de la miséricorde, pas une année de la morale, heureusement.
Oh mon Dieu, sinon ça aurait été horrible.
Bah oui.
Je suis un peu belle, hein.
Est-ce qu'il y a une autre question ?
Oui, moi j'avais une dernière question, parce que je vois que le temps avance.
Non, donc, mais on
à
est.
À toute fin de votre.
On a un peu plus de temps, oui.
À toute fin de votre audio, vous disiez, vous avez parlé de pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas ordonner des femmes prêtres ? Vous savez, parce que comme l'homme, il représente l'époux et que la femme représente l'église, tout ça, machin. Oui. Voilà, donc je n'ai pas très bien compris le truc, en fait.
Le raisonnement ?
C'est ça.
Alors, le raisonnement catholique habituel, c'est, quand je dis habituel, c'est-à-dire la position du magistère est la suivante. Jésus-Christ n'a appelé à sa suite que des hommes. Et donc, l'Église s'estime liée par le choix de Jésus. Elle ne se prononce pas sur le fait de... éventuellement, il est possible qu'on puisse ordonner des femmes prêtres, mais Jésus ne l'a pas fait. C'est-à-dire n'a pas appelé. Voilà. Alors, c'est une question intéressante parce que c'est un peu le même argumentaire que tout à l'heure. C'était peut-être une question de culture. Ah. C'est-à-dire, au temps de Jésus, la place de la femme n'était peut-être pas si valorisée que ça. Ah. Mais. Comme l'Église
pas du tout,
mais alors
il n'a pas continué.
Ben, c'est-à-dire que comme l'Église ne le sait pas, elle a choisi de ne pas faire autrement. Alors, ça, c'est le premier argument pour ne pas ordonner de femmes prêtres. Le deuxième argument, vous l'avez évoqué dans votre question, le prêtre, qui est un homme, représente le Christ époux, alors que la femme représente l'épouse, l'Église épouse. Donc, c'est l'argument de la symbolique. Époux, épouse, Christ époux, femme épouse. D'accord ? Et le prêtre représente sacramentalement l'homme, enfin le Christ, Jésus. Alors, c'est l'argumentaire catholique, ça, hein, mais c'est un argumentaire que, par exemple, les anglicans ne respectent pas. Ils ont fait sauter ça en disant que ce n'était pas un argument suffisant. Bon, ça ne se pose pas de la même manière pour les églises protestantes, hein, puisque dans les églises protestantes, il n'y a pas de tradition apostolique, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de succession des évêques, si vous voulez. Ils ne reconnaissent pas la succession apostolique, donc ils peuvent ordonner des femmes. Ce n'est pas sacramentel. Hein. Mais chez les orthodoxes, c'est comme chez les catholiques. On a le même argumentaire là-dessus. Et chez les anglicans, comme vous l'avez remarqué depuis quelque temps, on ordonne des femmes prêtres et évêques. Mm-hmm. Parce que les anglicans ne sont plus convaincus par l'argumentaire de la représentation sacramentelle de l'homme qui représente lui-même le Christ, qui était un homme, etc. C'est-à-dire qu'ils font une... ils estiment que les femmes peuvent parfaitement représenter sacramentalement Jésus dès lors qu'on ne réduit pas l'homme au masculin, mais l'homme au sens de l'humanité. Vous voyez ? Bon, mais c'est des... Donc, comme souvent d'ailleurs, la tradition catholique représente l'argumentaire le plus exigeant, hein, le plus, quand je dis le plus exigeant, ou le plus rigoriste, si vous voulez. Voilà.
Mais parce que du coup, si chez les catholiques, une femme était prêtre, comme c'est une femme, elle ne peut pas être elle peut être épouse, elle serait épouse d'une épouse. Par rapport à l'Église, magistères qui ne sont que des hommes, c'est quoi ce qui se passe dans leur table, dans leur tête? J'en sais rien, hein, mais voilà.
Alors, je n'ai pas entendu toute la question, il y a eu un tout petit moment de. Mais oui. Le. Comment dire ça? J'avais une idée pour vous répondre.
Une femme peut représenter l'humanité. Enfin, je veux dire.
Oui, ben c'est ça. Que la femme représente l'humanité, c'est l'argument théologique que les Anglicans suivent. Ça ne leur pose pas de problème. Mais pas pour les
catholiques. Pourquoi chez nous, ça pose problème, du coup?
Et là, vous êtes sur le. Alors, normalement, on ne peut plus en débattre. C'est-à-dire que.
Vous savez, il est 42, il y a encore du temps. Non,
on en débat, mais je veux dire que le pape Jean-Paul II a écrit une lettre apostolique qui s'appelle, je ne sais plus comment, je ne la retrouve plus, là, le nom dans ma tête, Mulieri, je ne sais plus, où il dit que la question est close. Bon, en réalité, elle n'est pas close parce que tout le monde en parle, y compris dans l'Église catholique. Vous savez, les papes ne sont pas toujours très, très obéis.
Alors, oui, oui, oui.
On en parle, mais l'argument dernier, parce que l'argument sur la symbolique, à mon sens,
il a un grand poids, c'est ça.
Il est un peu fragile. Hein.
Il est un peu fragile.
L'argument qui consiste à dire, on ne peut pas ordonner des femmes parce que. Parce que le Christ n'a appelé que des hommes, c'est, on ne peut pas tellement le justifier théologiquement. Vous voyez, on ne peut pas tellement approfondir la question. Tout ce que l'Église peut dire, c'est ça pourrait aller en sens contraire, mais Jésus ne l'a pas fait, donc on est lié, en l'absence de connaissances plus approfondies, si j'ose dire, on est lié par le choix de Jésus. Et on ne veut pas faire plus, mais
oui, mais en même temps,
dans le sens contraire,
ce que je comprends pas, c'est aussi allez-y, pardon.
Dans le sens contraire, il faut quand même se dire que l'argument théologique, on devrait le situer, à mon avis, et je suis pas le seul à le dire, sur le terrain du sacrement de baptême, c'est-à-dire nous sommes baptisés hommes et femmes, ce qui fonde une égalité. Une femme ou un homme laïque peut baptiser, c'est-à-dire célébrer un sacrement au titre du ministère baptismal commun. Si on suit cette logique, on pourrait ordonner des femmes prêtres. Mais c'est l'argumentaire catholique est rivé à l'Eucharistie, célébré par un homme, représenté par... Vous voyez, c'est ça. Mais si on originait la question dans le sacrement du baptême, on pourrait peut-être élargir. Hein. Mais moi, je remarque que, pour l'instant, le magistère ne le fait pas. Et comme le pape Jean-Paul II a écrit une lettre spéciale pour dire « on ne le fait pas », alors on ne le fait pas. On a posé la question à François, hein. Pas François, hein, au moment du synode sur la famille, hein, on lui a posé la question, il a répondu « Ah, je ne fais pas parce que Jean-Paul II a dit qu'on ne le faisait pas. »
Ouais, mais non, ça c'est de la
triche. Voilà, il a répondu. Voilà, donc c'est... Vous savez, l'avantage du magistère, c'est que c'est blanc ou c'est noir. Hein. Il y a pas de zone grise.
Par contre, oui, mais en même temps, je trouve qu'on insiste aussi beaucoup... Jésus, dans sa société à lui, qui est tout ça machin, où la femme avait quand même une place un peu misérable, il a été le premier à leur donner une valeur, quoi. Et ça, c'est jamais pris en compte dans cette question-là. Enfin, je veux dire, il les regarde, il les considère,
Un dossier très très complexe, très riche que vous évoquez là. On le pose souvent, était-il misogyne, Saint Paul, hein. Alors, Jésus, Je ne sais pas si on peut dire que Jésus a promu la condition féminine, ça me paraîtrait un peu anachronique, mais il avait une attitude à l'égard des femmes qui était très, très libératrice, très libérante, hein, très...
C'est différent des hommes de son époque aussi.
Très différent des hommes de son époque, sans doute, mais encore plus différent de saint Paul. On a beaucoup accusé à tort, saint Paul de misogynie. On a aussi accusé saint Paul d'esclavagisme, parce qu'il y a effectivement une lettre où on dit Paul légitime l'esclavage. Alors c'est très compliqué cette affaire-là, parce que en réalité, avec nos yeux contemporains, on dit il légitime l'esclavage. En réalité, ce qu'il en dit est une façon déjà d'améliorer la condition de l'esclavage. Voyez, donc c'est très facile de dire il est esclavagiste. Mais ça pose la question de comment l'Église s'insère dans les mœurs du temps, comment elle les valide ou comment elle les conteste. Par exemple, Jésus a contesté le primat du temple, les marchands du temple. Voilà, ça c'était une attitude très, très violente même. C'est une question aussi, la violence de Jésus à ce moment-là. D'ailleurs, la violence est une question d'ailleurs dans Ancien et Nouveau Testament, tout ça. Voilà, donc c'est toutes ces questions avancent avec ceux qui les lisent dans l'Écriture et demandent à être interprétées en contexte. Et quand on interprète en contexte, quand on est catholique, on ne le fait jamais seul, on le fait toujours dans la communauté croyante, l'Église, sous l'impulsion de l'Esprit. Voilà. Une dernière question peut-être ?
Karine, non, tu n'as rien à dire, j'ai encore une question. En fait, j'ai quand même lu un peu la Bible, mais plutôt, vous savez, la Bible pour enfants, et voilà, puisqu'on offre aux enfants pour le sacrement. Et quand même, quand on lit la Bible, en tout cas l'Ancien Testament, c'est un peu Dallas, si vous me permettez l'expression.
C'est quoi Dallas ?
Dallas, ouais. Bah, ton univers impitoyable, il y a de l'inceste, il y a allez, dégage, j'épouse ma belle-sœur. Parfois, on se dit,
il y a des passages, si c'est dans la Bible, il y a des passages moins de 18. Hein, pour bien...
exactement, c'est ça.
Non, mais c'est-à-dire que si vous lisez étonnamment, si vous lisez la Bible, il faut garder un œil étonné, hein, parce que. Les mœurs de la Bible ne sont pas les mœurs des mœurs très catholiques.
Ah mais non, voilà, c'était ça mon point. C'est que ce qui est surprenant, c'est d'arriver à parler de morale, alors que quand on lit l'Ancien Testament, mon Dieu, à part le Décalogue, ok.
Oui.
Mais le reste, c'est
alors,
fais ce que tu veux, quoi.
Je vous
peut-être
donne...
aime et fais ce que tu veux, mais.
Oui, enfin, vous savez, le texte aime et fais ce que tu veux, la suite du texte est moins sympa. Mais il y a un. Non,
c'est ça.
Il faut quand même se... Puisqu'on est catholique, en tout cas, que je transmets ça, il y a une règle d'or hein, dans l'Église, c'est que on ne peut pas séparer la Bible de la tradition qui l'interprète. C'est-à-dire que la Bible n'a pas résolu toutes les questions. D'ailleurs, il y a des questions qu'elle n'a jamais abordées ou qu'elle a abordées différemment. Et donc, la tradition interprète de façon exacte, dit-on, le donné biblique pour l'actualiser, pour l'actualiser, hein, pour le présenter aujourd'hui, etc. Par exemple, je citais l'esclavage. Aujourd'hui, l'Église conteste l'esclavage. La guerre, c'est plein. La Bible est un récit extrêmement guerrier. Aujourd'hui, l'Église conteste, refuse la guerre. Elle l'a très, 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 très longtemps acceptée. Mais aujourd'hui, elle conteste la guerre. Hein, donc, mais en principe, le grand principe théologique catholique, c'est que la tradition est l'interprète authentique de l'Écriture. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le principe de lecture des protestants. Hein, la fameuse sola scriptura, l'écriture seule des protestants, ce n'est pas un principe catholique. Le principe catholique, c'est qu'on peut lire seul, bien sûr, mais pour qu'il y ait une interprétation autorisée, c'est la communauté croyante qui sous l'autorité du magistère, qui le fait. On l'accepte ou pas. Je veux dire, c'est une contrainte. Hein. Je ne suis pas sûr que tous les catholiques acceptent toutes les interprétations du magistère, mais le principe de base, c'est celui-là.
Okay.
Voilà. Okay. On arrête là pour ce soir, ça va ?
Oui.
Donc, la prochaine fois, je vous annonce la couleur. Hein. On aura... je vous parlerai de la morale, déjà je pense, de la morale des pères de l'Église et de la morale de Saint Thomas, la grande morale de Saint Thomas. Donc on fera un petit parcours, on fera quelques sauts des sauts dans le temps, parce que les pères de l'Église, c'est jusqu'au 8e siècle. Hein. Et puis Saint Thomas, c'est le 13e. Mais là, ce sont des sommets très importants à découvrir.